Vous écoutez
RMC. RMC, la punchline GG.
Le 10 août 2024, une partie de moi est morte. Ça a été, et c'est encore, une période très douloureuse. Le soir de mon élimination, j'avais le cœur en miettes. Je n'étais pas déçue ou triste. C'était 100 fois pire, ce que j'ai vécu. Oui, ce jour-là, une partie de moi est morte. Et elle ne reviendra plus jamais. Ça fait 7 ans que je préparais ces jeux à domicile. J'avais investi du temps, de l'énergie, de l'argent. Je pensais que c'était mon moment. Je pensais que c'était mon heure. Heureusement que je suis bien entourée. Pour l'instant, mon cerveau tient le coup.
Ces propos de Mathilde Gros ne va pas du tout avec la voix de Siri qui essaye de la jouer charmeuse et séductrice alors que c'est évidemment extrêmement triste. Hein. Ouais. Une partie de moi est morte. Une compétition peut-elle briser une carrière? C'est notre débat à propos de ces déclarations de Mathilde Gros. Oui ou non, Christophe Cessieux?
Je pense que oui.
Marc Madiot?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Je crois que j'ai répondu non.
Non. Pascal Duprat?
Non, je pense que non.
Ok, avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste vélo, c'est Arnaud Souk en direct du Danemark pour les mondiaux de cyclisme sur piste. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
Et tu as retrouvé ces derniers jours, à l'occasion de ces mondiaux, Mathilde Gros.
Oui, il y avait un état d'esprit, une humeur de lendemain de JO raté. Hein. Clairement, Mathilde Gros, championne du monde de vitesse individuelle en 2022, a beaucoup de mal à se remettre de cet échec. Avant de l'entendre, écoutons d'abord son papa, Maurice, qui fut tout l'été au chevet de sa fille, complètement abattu après le zéro pointé des Jeux.
La douleur a été terrible. Tout ce qu'elle vit, on le vit aussi par procuration. Donc, quand elle gagne ou quand elle perd, le ciel nous est tombé sur la tête ce jour-là où elle a été éliminée du tournoi de vitesse individuelle. Donc la douleur a été terrible. Elle l'a été pour nous à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Hein, je veux dire, quand vous avez votre enfant qui est mis à terre comme ça et qui tombe de très haut par rapport aux objectifs qu'elle s'était fixés, forcément donc vous ressentez une extrême douleur.
Et il a pourtant fallu se remettre en selle pour la Provençale sur ces championnats du monde qu'elle avait, quoi qu'il arrive, prévu de disputer. Et ce, quels que soient ses résultats aux Jeux Olympiques. Ses deux premières épreuves, la vitesse et les 500 mètres, ne lui ont pas apporté de médaille, mais elle a au moins pu exorciser un minimum la douleur et le mal d'avoir raté l'objectif de sa vie.
C'est vrai qu'après les Jeux, je savais pas trop comment j'allais être, physiquement, mentalement surtout. Donc franchement, je suis contente d'être ici. Donc pour me faire mal à la gueule, pour essayer d'aller le plus loin possible. Et après le Kérin, par contre, j'espère bien être là. Et je compte aussi reprendre du Kérin, du plaisir. Il y a un beau niveau. Enfin voilà, c'est un championnat du monde et je me dis c'est pas fini.
Le Kérin, épreuve spectaculaire sur laquelle donc Mathilde Gros entrera en lice tout à l'heure, un petit peu après 11h.
Merci beaucoup Arnaud Souk. D'ailleurs, on suivra cette course avec toi, toi qui es au Danemark, donc pour les mondiaux de cyclisme sur piste, avec donc le Kérin pour Mathilde Gros, la dernière chance de se rattraper pour ces championnats du monde. Une compétition peut-elle briser une carrière? Pourquoi non, Sarah?
Ah, je vais commencer. Pourquoi non? Parce qu'en fait, je le comprends pas. La manière dont tu prépares ta compétition, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais apposer les propos de Léon Marchand qui nous sert depuis des mois. C'est la difficulté et en fait ce dont elle parle. On a le sentiment que ces deux échecs aux Jeux Olympiques, ils ont tué un peu ce qu'elle était elle-même, dans le sens où en fait elle plaçait tellement le résultat en haut comme étant une réussite qu'il ne pouvait pas y avoir, d'alternative. Et Léon Marchand, depuis le début des Jeux Olympiques, même avant les Jeux Olympiques, il nous expliquait le travail qu'il faisait.
Il se préparait à l'échec.
Il se préparait en disant, mais si il y a échec, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et en fait, il a travaillé là-dessus pendant des mois, peut-être même des années, au point que finalement, le résultat n'était pas la source de « je vis » ou « je vis pas », « j'existe » ou « j'existe plus ». Et j'ai le sentiment, en fait, avec les propos de Mathilde Gros, que ces échecs-là, ils ont été érigés comme étant la seule solution possible. Et quand je me permets de regarder son palmarès, je la connais pas. Mais pardon, il y a un seul titre de championne du monde en 2022. Et donc, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas surestimé les objectifs qu'elle s'est fixés au point de ne pas les atteindre et de tomber tellement bas de se dire, mais en fait, effectivement, c'est une petite mort. Donc, j'ai un doute sur, en fait, où est-ce qu'on a mis les objectifs? Est-ce qu'ils étaient atteignables par rapport à ce qu'elle, elle a déjà fait dans le cyclisme? C'est là où je réponds, non, elle peut rebondir, mais il y a un sacré travail à faire.
Ok, Christophe Cessieux.
Alors moi, pour avoir suivi la préparation de Mathilde, elle faisait partie de la team RMC, c'est-à-dire que c'était certains athlètes qu'on appelait une fois par mois dans l'émission, avec qui on passait une demi-heure et on discutait de la préparation, des enjeux, des angoisses. Moi, Mathilde Gros, c'est une jeune fille que j'adore. Je trouve qu'elle a une personnalité incroyable. C'est non seulement une grande championne, mais en plus elle s'exprime bien, elle a pas de langue de bois. Et au fur et à mesure que l'épreuve approchait, je l'ai sentie devenir différente. Elle était beaucoup moins bavarde. Elle disait plus les choses comme elle les disait au tout début de la préparation. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui cloche là dans la préparation de Mathilde, parce que je sens qu'elle se mettait une pression terrible. Tu as raison de dire, elle a qu'un titre mondial. Elle s'était plantée l'année d'avant. Elle était pas dans une période hyper facilitante pour elle.
Et j'ai l'impression que les objectifs étaient à la hauteur de ses chronos.
Elle a pris la pression des jeux en pleine figure et elle s'est plantée du début à la fin de ces Jeux Olympiques.
C'est parce que c'était une favorite aussi pour
elle avait toute la pression de la piste française sur les épaules, parce que les autres n'étaient pas au niveau, enfin du sprint français en tout cas sur les épaules. C'était la seule chance de médaille d'or pour les sprinteurs français.
Pour qu'elle soit une médaille, il faut des temps de passage, on est bien d'accord.
Mais à l'entraînement, elle réalisait des belles choses.
Mais l'entraînement, c'est l'entraînement, en fait.
Elle est championne du monde en 2022.
Elle était quand même pas dans un statut de favorite. Elle était outsider de la course.
On nous l'a
présenté. Elle savait intimement qu'elle était dans une situation qui pouvait lui permettre d'aller chercher un très gros résultat, mais qu'elle pouvait aussi rencontrer des difficultés.
Parce qu'elle avait gagné ce titre mondial sur la même piste de Saint-Quentin, qui est sa maison et qu'elle connaissait parfaitement.
Pascal, et après Marc, je te donne la main.
Pour coller au sujet, parce que c'est la question qui nous importe, la compétition peut-elle tuer une carrière? C'est ce qui va déterminer l'athlète de haut niveau, le champion et le grand champion.
Parce que le grand champion, c'est un grand mental.
Il se relève de ses échecs. Parce qu'immanquablement, un grand champion, mis à part quelques-uns, se relève des échecs. Parce qu'ils ont de la résilience, parce qu'ils ont une force mentale incroyable, parce qu'ils sont capables de faire des feedbacks sur leur compétition manquée et de changer, le cas échéant, l'entraînement, leur équipe d'entraînement, et surtout d'être focus sur de mieux appréhender les compétitions suivantes. Donc là, c'est l'avenir qui nous dira si c'est déjà une championne. Elle a été championne du monde en 2022 dans sa spécialité. On verra si c'est une grande championne, si elle a cette faculté à se relever de cet échec cuisant aux Jeux Olympiques de Paris chez elle.
Toi qui connais bien ce sport, évidemment, oui. Marc, et tu as entendu ce qu'a dit Sarah. Sarah, elle parlait de cette préparation, de ne pas se préparer à l'échec. Est-ce que tu as
une compétition peut tuer une carrière? Je réponds oui. Parce qu'en fait, quand on est sportif de haut niveau, on est à un moment ou à un autre dans sa carrière, on est confronté à une seule question. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas réussir face à la performance, face à l'objectif? Et quels que soient les propos que l'on va tenir, quelles que soient les interviews qu'on va réaliser, au fond de soi-même, on a la réponse. On va l'exprimer ou on ne va pas l'exprimer, mais on l'a la réponse. Moi, je me suis retrouvé un jour dans le final de Paris-Roubaix, en 85, à 50-60 km de l'arrivée, je me suis dit, aujourd'hui, tu vas savoir. Tu vas savoir si tu peux ou si tu ne peux pas. Quelle que soit l'issue de la compétition, j'avais et je savais que j'aurais la réponse. Alors,
mais tu avais déjà la réponse à ce moment-là quand
non,
tu poses
je n'avais
la question.
Pas. Je savais que j'allais avoir la réponse. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où je sentais physiquement et mentalement où j'avais les moyens de gagner. Mais est-ce que j'allais gagner? J'ai gagné, j'avais ma réponse. Mais si j'avais échoué, si j'avais terminé deuxième, troisième ou quatrième, j'avais aussi ma réponse. Et j'avais aussi ma réponse par rapport à la deuxième fois où j'ai gagné. Parce que la deuxième fois, j'ai gagné parce que j'avais gagné la première fois. Donc le fait de savoir qu'on est dans une situation où on peut tuer une carrière, oui, ça existe. Et j'ai un autre exemple, ne me concernant pas, en regardant juste ce qui se passe, en observant une compétition. Il y a une quinzaine de jours, on a eu le Tour de Lombardie. On a vu Pogacar qui a atomisé la course. J'ai observé les images, et peut-être que je me trompe, mais j'ai vu des images de Evenepoel qui franchissait la ligne. Dans les secondes qui ont suivi l'arrivée, Je me suis dit, Evenepoel a la réponse. Il sait aujourd'hui que si les choses ne bougent pas, il ne gagnera jamais le Tour de France.
On était autour de Lombardie.
Alors peut-être que je me trompe.
T'es sûr qu'aujourd'hui il sait de manière définitive?
Définitivement, peut-être pas. À l'instant où il a passé la ligne d'arrivée, il avait une réponse. Et elle n'était pas bonne, la réponse qu'il avait. Ouais. Et après, alors ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est Mathilde Gros. Et là, on est dans une autre situation. Est-ce qu'elle a eu raison ou pas d'exprimer sa conviction intime? Je ne sais pas.
Tu parles avant ou tu parles de ce qu'elle dit là maintenant?
De ce qu'elle dit là maintenant. Est-ce qu'elle a eu raison de le faire ou pas? Je ne sais pas. Je la connais pas suffisamment. Toujours est-il qu'en ayant l'attitude qu'elle a eue, elle se met en danger. Elle s'est mise en danger par rapport à la concurrence. Elle s'est mise en danger par rapport à l'accompagnement qu'elle va pouvoir avoir avec l'équipe de France. Elle s'est mise en danger. Alors, peut-être qu'elle a raison de se mettre en danger et que ça va lui permettre de rebondir ou pas.
Non, okay. Moi, je pense qu'elle est en pleine phase d'introspection. D'ailleurs, ses résultats sont pas probants là où en ce moment. Donc, ça se poursuit. Il va falloir qu'elle change des choses. Certainement, ses méthodes d'entraînement ou peut-être son staff. J'en sais rien. Je suis pas assez spécialiste du vélo pour ça. Mais je pense que au contraire, elle est de s'interroger. Le questionnement fait partie du bagage du champion. Mm-hmm. Il faut savoir en permanence s'interroger
et se refixer des objectifs qui bien sont sûr atteignables en fait.
C'est comme après avoir eu un accident, t'es obligé de réathlétiser, de faire de la rééducation mentale pour arriver à être...
mental est aussi important que le travail physique et technique. Hein.
Tiens, je vais juste vous donner un exemple d'un garçon dont la carrière a été plombée par un échec terrible. C'est celui de Paul-Henri Mathieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mmh. Immense espoir du tennis français, sélectionné pour la finale de la Coupe Davis en 2002. Je crois.
C'est 2002 ou 2005?
Alors qu'il n'avait que 20 ans, qui a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. C'était le dernier match dimanche soir. La France et la Russie étaient à égalité de partout. Il mène 2-7-0. Il est à 2 points du match. Et là, tout s'écroule. Et il perd son match. L'équipe de France perd la Coupe Davis. Et Paul-Henri Mathieu sombre. Il va mettre des années à remonter au sommet. Un sommet, alors que franchement, avant cette finale de Coupe Davis, tout le monde l'annonçait comme le Messi, le nouveau champion français. Et ça lui a fait beaucoup, beaucoup de mal, cette défaite, Sarah, non ?
Oui, c'est une terrible défaite qui a mis du temps à s'évacuer. Mais après, on peut, enfin, il y a toujours des si. Oui, s'il avait gagné ce match, est-ce qu'il serait monté 10e mondial? Enfin,
non, mais en tout cas, ce que veut dire Christophe, c'est que notre question, c'est est-ce qu'une compétition peut briser une carrière? Pour Paul-Henri Mathieu, ça y a contribué un peu.
En tout cas, il n'a peut-être pas été au plus haut de ce qu'il voulait. Est-ce que les espoirs... Non, vas-y, Pascal, c'est ça.
Je disais, c'est peut-être parce que les espoirs placés en lui étaient trop élevés ou trop hâtifs. Et en fait, la sanction, c'est en fin de carrière. Quel est ton bilan? Donc, s'il n'a pas performé comme on l'espérait en début de carrière, c'est parce que, tout simplement, plutôt que la compétition qui te fracasse, c'est plutôt que son niveau était celui qu'il a exprimé tout au long de sa carrière. Voilà. Moi, je pense qu'un sportif de haut niveau, ce qui fait sa différence de ce sportif de niveau et du très grand champion, c'est cette faculté à se remettre en question. Quand vous voyez par exemple Tiger Woods, ça va te faire plaisir ce que je dis, quand il commence à avoir des problèmes de dos, il commence à moins gagner, il change son swing. Il a entrepris une action pour
reperformer. Mais lui, il savait déjà, et je reprends la phrase de Marc sur ce débat, lui il savait déjà à un moment donné de sa carrière, alors peut-être que Mathilde Gros, elle ne sait pas aujourd'hui, ou qu'elle sait qu'elle ne peut pas atteindre ses objectifs.